Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les humains et leurs machines à son. Dans cet épisode, contrairement à la dernière fois où nous avons fait un peu de musique classique, où nous étions intéressés à quelque chose de quand même assez récent, Joe Hisaishi, dans les années 80, avec la musique de Le Château ambulant, et bien cette fois-ci, je vous invite à plonger avec moi beaucoup plus loin dans le temps, à remonter au 19e siècle, à la rencontre de Frédéric Chopin. Frédéric Chopin, dont nous écoutons actuellement le début du premier concerto pour piano, est un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique européenne. Et il s'inscrit dans une période qu'on appelle le romantisme. Le romantisme en musique est un mouvement assez particulier, qui commence à la fin du XVIIIe siècle, et se prolonge au cours du XIXe siècle. C'est un courant qui a particulièrement marqué l'histoire de la musique, puisque c'est, ce courant-là qui a donné naissance à toute la musique que vous connaissez actuellement. Le jazz, le rock, d'une certaine manière, sont aussi des très lointains descendants du romantisme. Le romantisme fait vraiment la transition entre la période classique, où on considère la musique comme un art qui se doit d'être d'avoir une perfection quelque part un peu mathématique, dans certains aspects. Et cet aspect-là était tiré évidemment aussi, qu'on retrouve dans la musique baroque, notamment la musique de Bach. Après le classicisme, du coup, qui dure de 1750 à 1815, pour faire grossièrement le schéma, eh bien, il y a le mouvement romantique qui arrive en musique. Et ce mouvement romantique, il se caractérise par l'exaltation et la mise en avant de la subjectivité, des émotions. Et c'est dans cette exaltation et dans ce mouvement-là que s'inscrit Frédéric Chopin. Frédéric Chopin, qui est mort assez jeune, aux alentours de ses 40 ans, est un des plus grands compositeurs de cette époque, et il a participé à populariser un instrument qui se développait encore à l'époque, le piano. Je pense beaucoup de mal encore aujourd'hui à s'imaginer à quel point le piano était un instrument assez nouveau, qui avait à peine 50 ans quand Chopin a commencé à jouer. Alors que d'autres instruments comme le violon avaient déjà plusieurs siècles à leur actif. Et Chopin va développer et magnifier la technique du piano. Aujourd'hui, je vous invite donc à plonger dans une œuvre de Frédéric Chopin, son nocturne en fa mineur, issu de l'opus numéro 55, et à se plonger sur ce qui fait que ce morceau est si caractéristique de la période romantique, si caractéristique aussi de Chopin lui-même, et de la manière dont on conçoit la musique en musique dite classique. Petit aparté, l'appellation de musique classique est une appellation abusive quelque part, car la période classique de la musique, c'est une période qui s'étend de 1750 à 1815, comme je vous l'ai dit précédemment. On retrouve des compositeurs comme Mozart ou Haydn, voire même Beethoven dans le mouvement classique. Mais la musique qu'on entend généralement comme musique classique, c'est-à-dire par exemple Bach ou Vivaldi, n'est pas du tout en fait appropriable à cette appellation, puisque Bach et Vivaldi sont de la musique baroque par exemple, ou encore Chopin n'est pas vraiment de la musique classique, mais de la musique romantique. Cette appellation de musique classique, elle vient en fait d'une certaine pédanterie des conservatoires, on pourrait dire, et l'autre des appellation qui existe pour désigner cette musique-là est encore plus pédante. C'est la musique musique savante. Comme s'il y avait de la musique non savante et qu'il y avait la bonne musique, si vous voulez, la vraie musique et la musique de bas étage. Cette appellation, cette manière de considérer la musique me débecte personnellement et je ne pense qu'elle ne fait qu'une seule chose, c'est desservir cette musique-là qui est d'une grande beauté et qui n'est pas du tout limitable à une certaine forme d'élite. Je pense que tout le monde peut bénéficier de la musique classique et apprécier cette musique. C'est pourquoi aujourd'hui, je me lance dans la pas très facile tâche de vous présenter Frédéric Chopin. Et on va faire ça à travers ce nocturne-là. Donc, je vais vous guider pas à pas à travers la structure de ce morceau. Et aujourd'hui, comme c'est le cas dans malheureusement beaucoup d'œuvres classiques, je dois vous dire quelle va être la personne qui va jouer le morceau de musique. Parce que, évidemment, ces pièces sont tellement vieilles que nous n'avons aucun enregistrement des personnes qui les ont jouées. Aujourd'hui, ce sera donc la musique jouée par Luc Faulkner que nous allons écouter, tout simplement parce que c'est une musique qu'on retrouve gratuitement sur Internet. Alors, autre aparté, puisqu'on se planche dans la musique classique, et il est de bon ton, je pense, de faire cet aparté technique, si vous voulez écouter de la musique classique et ne pas payer des 100 et des 1000 pour trouver des enregistrements, n'hésitez pas à aller sur le site de l'IMSLP, qui est noté dans l'article qui accompagne ce podcast, mais dont je vous redis le nom ici, IMSLP, pour International Music Score Library Project, qui contient, pour chacune des œuvres qu'il héberge, si l'œuvre est suffisamment connue, des interprétations libres de droit et ou qui appartiennent qui sont soit le Creative Commons, soit qui appartiennent au domaine public, ce qui vous permettra d'écouter pour rien du tout, en quelque chose de complètement gratuit, de complètement libre et de totalement légal, de la musique classique. Alors, de même, comme le nom l'indique, c'est une librairie de partitions, ce qui fait que si vous voulez apprendre la musique, vous avez en réalité cette ressource illimitée. Il y a des centaines de milliers de partitions littéralement que vous pouvez trouver sur l'IMSLP, cette ressource illimitée pour jouer de la musique. Ces petites présentations étant faites, je pense qu'il est temps de plonger dans la musique de Chopin lui-même. Nocturne en fa mineur. Commençons par le tout début du nocturne. Cette longue première section, nous allons l'analyser ensemble maintenant. Nous sommes dans la tonalité de Fa mineur. Et on a une mélodie extrêmement simple qui se balade dans l'aigu. Cette mélodie-là, décompose-la un petit peu. On part du cinquième degré de la gamme. On avait déjà parlé des degrés plusieurs fois. Pour refaire rapidement, toutes les gammes sont construites autour de une note principale qu'on appelle la tonique, ici le Fa en Fa mineur, peut être considéré comme le point de non-tension, le repos, la maison, et qui va tourner aussi sur deux autres notes, en général la quarte. Et la dominante, ou qu'on appelle aussi la quinte, ici c'est aussi la sous-dominante pour la quarte, qui sont des notes plus tendues, qui sont éloignées de la maison, et le but c'est de retourner jusqu'à la maison. Et du coup, cette mélodie, elle commence sur ce cinquième degré, donc elle commence en l'air, incertaine, elle ne part pas de la maison, elle est directement en l'air. Et elle revient en l'air, elle reste suspendue, ce n'est pas une mélodie qui se résout, ce qui donne ce côté un peu pensif, rien qu'à la mélodie. Et pour accentuer ça, on a ici quelque chose qui est très caractéristique de Chopin, l'ornementation. L'ornementation, c'est le fait de partir d'une mélodie simple et de lui rajouter des petits ornements, de tourner un peu autour des notes ou de lier les notes, c'est-à-dire qu'au lieu de faire, par exemple, on va faire. Vous voyez, on lit les notes, on tourne un peu autour, ce qui va donner cet effet un peu plus construit et lyrique. Eh bien, ici, Chopin, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une mélodie très simple. Et va juste tourner autour de ce do qu'on a là. D'ailleurs, la mélodie est ce qu'on appelle statique, c'est-à-dire qu'elle part d'un point et revient au même point. Et elle peut être considérée, en fait, comme intégralement étant un ornement de ce do. On tourne autour, et on revient à la maison. Ce motif principal, il va le jouer deux fois avant de faire ce qu'on appelle une continuation et une conclusion. Alors, cette structure de motif, motif, continuation du motif, et conclusion, c'est ce qu'on appelle en musique classique une phrase. C'est un thème construit comme une phrase. C'est ça le nom de ce truc-là. Et c'est quelque chose qui est présent partout dans la musique classique et qui va vraiment, enfin, dans la musique dite classique. Et ce qui va vraiment être très caractéristique de cette musique, c'est ce côté très binaire. D'abord, on a une première fois le motif, une deuxième fois le motif, puis le motif un peu plus long. Et généralement, ça va d'ailleurs être découpé en deux mesures, deux mesures, quatre mesures pour la continuation et la conclusion. Un autre exemple, ce serait par exemple Mozart. Motif, pour une première fois. Ensuite, continuation de motif. Enfin, répétition du motif. Et là, on continue. Voilà, et on arrive sur les conclusions. Ce genre de structure-là de morceaux et de thèmes musicaux est présent partout, et Chopin, qui se rapproche du mouvement romantique qui vise à briser les structures établies pour mettre en avant la puissance des émotions, Chopin en fait est quelqu'un de très conservateur dans sa musique quelque part, puisqu'il reste quand même très ancré dans cette esthétique, en tout cas d'un point de vue mélodique, cette esthétique classique. Et ça s'entend justement dans cette mélodie. Par ailleurs, l'harmonie, c'est-à-dire les accords qui vont sous-tendre cette mélodie, est très épurée, très simple. Et l'accompagnement lui-même se veut simpliste, de sorte à laisser l'espace. On a de l'espace. Le piano résonne, respire. Et on n'est pas étouffé par une cascade de notes, qui est un trait qu'on retrouve chez beaucoup de romantiques, notamment Liszt. Ici, comme accompagnement, on va juste avoir l'accord de tonique. Puis, l'accord du septième degré. Donc on descend en fait en termes d'harmonie en fait. C'est très très simple, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu partout. Mais cette fois-ci, Chopin, comme beaucoup de compositeurs classiques, va faire en sorte que la basse chante sa propre mélodie. Si vous prêtez bien attention, vous entendrez cette basse-là. La mélodie. Et c'est cette basse-là, lente, qui monte doucement, là où la mélodie reste statique, ça crée une structure où on a à voir les accords suspendus en l'air. Et en dessous, cette basse qui monte doucement et cette et en haut, on a trois parties, l'accompagnement, la basse et la mélodie. Récoutons ce que ça fait quand tout est mis ensemble. Voici comment Chopin conclut sa mélodie. Et si on analyse cette fin, cette continuation, puisqu'on s'est vraiment beaucoup attardé sur le motif, cette continuation, elle fait... Eh bien, on reste sur ce Do, et pour une première fois, on en bouge pour descendre. On descend. On fait, mais de manière un petit peu décorée, avec des ornements, évidemment, comme ce que je vous avais dit. Donc la mélodie, en fait, elle est très simple. On reste sur un Do, puis on descend jusqu'à un Fa. Mais juste, on va rajouter plein d'ornements à travers ça, ce qui va donner, en fait, cette... couleur très chopinesque, quelque part, pour employer ce mot, terme un peu barbare. Et l'harmonie, elle aussi, va bouger. C'est-à-dire qu'au lieu de faire simplement... Ici, Chopin va continuer de monter avec sa basse. Faire cet accord-là, qui n'est pas un accord de Fa mineur. Mais qui est ce qu'on appelle qu'un accord chromatique, donc c'est un accord qui n'appartient pas à la tonalité, mais qui est un accord très caractéristique de la musique classique. C'est ce qu'on appelle la sixte napolitaine. C'est-à-dire qu'au lieu de faire... ou bien... En fait, cet accord-là, dans la progression, c'est un accord diminué. Et il a une grande tension. Il sonne très dissonant. Et du coup, on a tendance à baisser cette note-là pour jouer. Et cette note, cet accord-là, celui-là, c'est ce qu'on appelle la sixte napolitaine. Et cette sixte napolitaine, Chopin en est fou amoureux. Et il l'utilise justement ici à bon escient, car elle a un côté un peu exotique, un peu étrange, et ça va très bien avec l'atmosphère très rêveuse de ce nocturne. Et il fait d'ailleurs à la basse ce mouvement-ci. C'est un mouvement, là aussi, très caractéristique de ce qu'on, des cadences. Puisque, au lieu de simplement faire l'accord de sixte napolitaine, l'accord du cinquième degré, et revenir sur le premier degré, eh bien, il va faire sixte napolitaine, le premier accord, mais avec, cette fois-ci, non pas la tonique, mais la dominante, c'est-à-dire la note la plus tendue de la gamme, la quinte, en fond. Et là, on descend sur cinquième degré et on résume tout sur premier degré. C'est ce qu'il fait ici, c'est un mouvement très typique qui, pour, si vous voulez son nom technique, s'appelle le 6-4-2 cadence. Voilà, une cadence avec 6-4-2 cadence. Cadence parfaite, avec 6-4-2 cadence pour être précis. Il y a beaucoup de termes très complexes et très techniques dans la musique classique, c'est aussi quelque chose qui la rend très hermétique. C'est pourquoi aujourd'hui je préfère juste vous faire travailler vos oreilles plutôt que votre mémoire en vous surchargeant d'énormément de vocabulaire inutile, qui n'est pas vraiment nécessaire pour apprécier cette musique. Juste retenez qu'il y a cet accord un peu pensif, qui permet à Chopin de faire cette cadence-là. Si je joue là simplement l'harmonie, ça fera. Et pour accentuer cette bizarrerie dans l'harmonie, la tension qu'on a sur l'accord avant de revenir à la maison, au lieu de jouer directement, Chopin fait. Il n'attaque pas directement la note, il attaque juste au-dessus et redescend sur la note de l'accord avant de conclure. Et cette note suspendue en l'air qui n'est pas une note de l'accord et qui l'attaque sur l'accord avant de la résoudre sur une note de l'accord. Beaucoup de fois le mot accord, mais cette note qui crée une tension avant de se résoudre. C'est ce qu'on appelle une appoggiature. Et ici, on en a un très bel exemple. Et il reprend ce thème depuis le début. Sauf que la deuxième fois, au lieu de simplement faire, il fait. Il va rajouter ce. Cette petite ornement en plus qui va donner encore plus ce côté un peu tourné autour de la note avant de redescendre. Et Chopin adore les ornements, vraiment. C'est quelque chose qui est très important pour lui. Ses mélodies sont à la fois très chantées et il va avoir tendance à utiliser pas mal d'ornements dans ses mélodies. Eh bien, je vous propose, avec toutes ces informations, de réécouter cette première section qui, vous verrez, et si quand on a fait la première section, en fait, on a fait le plus important dans ce morceau. On tourne autour du Do. Prête attention à la basse. On répète le motif. On continue le motif, on le prolonge. Sixte napolitaine. Mouvement cadentiel classique avec le 6-4. Et on conclut. Et on répète cette introduction. La musique de Chopin est extrêmement bien construite. Ici, on a encore plus d'ornements. Et on entre dans la deuxième section, la section B. On va un peu plus vite. Et là, où la section A était très statique, la section B va avoir tendance à beaucoup plus bouger. C'est-à-dire qu'on va avoir cette mélodie qui monte, déjà. Et qui va ensuite redescendre. Avant de ramener jusqu'au thème principal, le thème A. Et bien avec cette mélodie qui monte et puis qui redescend, on crée du mouvement, et vous le sentez d'ailleurs, ça s'accélère un tout petit peu dans cette section. Et l'harmonie va beaucoup faire là-dessus, c'est-à-dire que là où on avait accord, nouvel accord, nouvel accord, là on va beaucoup plus les alterner beaucoup plus rapidement, directement, voilà, on change d'accord très rapidement. Oui, on a vraiment des accords très, en plus des accords très très tendus. Voilà, tous ces, on a les accords se succèdent plus rapidement et il y a des accords avec beaucoup de tension. Ça, là, ce genre d'accords-là qui vont amener plus de tension et. Ou encore. Ah, ça c'est. Qui amène à du mouvement. Et ce mouvement-là qui est induit par la tension est caractéristique de la musique classique. En musique classique et dans le romantisme particulièrement, on va chercher à casser les codes de la tonalité. On va s'extraire un petit peu de la tonalité pour mieux y revenir. C'est-à-dire que on va sortir du cadre pour aller chercher des accords qui ne sont pas du tout dans la tonalité, qui voyagent et qui vont en eux-mêmes, du fait de ne pas appartenir à la tonalité, contenir beaucoup de mouvements, beaucoup de tensions, et cette tension-là cherche à se résoudre. Et en jouant là-dessus, on va vraiment pouvoir amener la musique à avancer et à avoir une espèce de mouvement interne, une tension interne très très forte en émotion. Et c'est vraiment l'une des caractéristiques du romantisme. Et si on peut retenir une chose de Chopin, c'est que ses mélodies sont simples et chantantes, avec beaucoup d'ornementation, très 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 proche de la tradition classique. Et par contre, l'harmonie chez Chopin va être beaucoup plus sophistiquée. Et là, après cette section, comme vous allez l'écouter, on redescend là, on revient au thème A, mais encore plus ornementé que précédemment. Et on y va un peu plus vite. L'intérêt de l'ornementation, ici, c'est de donner plus d'espace à la mélodie, de la rendre différente de celle qu'on a déjà entendue, et du coup, de la rendre, elle continue à nous hanter et à raccrocher nos oreilles. Cette fois-ci, elle n'est répétée qu'une seule fois. On reprend notre section B. Un chouïa plus vite. Et on revient encore une fois sur le thème A. On a vraiment quelque chose de très proche d'un chant avec couplet-refrain. On revient au refrain, au couplet. Encore plus d'ornementation, évidemment. Et là, on arrive sur une nouvelle section. Avant d'attaquer la suite de cette nouvelle section, intéressons-nous vraiment à ce début-là. Et là, on est dans du pur romantisme. Le romantisme à son état brut. Avec énormément de contrastes. On passe de quelque chose de très pensif, qui finit... C'est ça, voilà. Et directement, on attaque fort. Et on revient tout doux. On revient fort dans le grave. Vas-y, oui. Vraiment, on a ce... Oui. On a ce jeu entre les graves, forts, et des accords qui sont rapides, et dans l'aigu, des accords lents, doux et calmes. Et alors que dans les graves, on n'a pas d'accord, d'ailleurs, si vous remarquez bien. C'est juste, on joue en octave, deux octaves en même temps, pour épaissir la mélodie. À demain. Alors que dans l'aigu, c'est beaucoup plus espacé. On a des accords vraiment très ouverts. Ce qui va vraiment donner ce contraste-là, et cette contraste entre le tourment, la tempête, qui se déroule dans le grave, et cette douceur dans l'aigu. Ce qui, là encore, nous invite à bouger, à avoir du mouvement. L'harmonie ici, parlons-en, elle bouge beaucoup, on passe d'une tonalité à une autre. On passe de Fa mineur, puis à Do mineur, et enfin on atterrit sur un accord très tendu de septième diminué, qui ne demande qu'une chose, c'est de se résoudre sur notre premier degré. Et donc, si on réécoute cette section-là depuis son début. Vous pourrez entendre le mouvement interne et cette nouvelle section qu'il y a derrière qui est une section tourmentée, alors avec cette alternance et qui va mener, si vous voulez, c'est le grand tourment avant le retour final du thème. Voilà, on termine la section 1 et puis on arrive sur cette cassure, ce moment tempétueux. Et là, ça sent que cet accord un peu tendu qui crée cette atmosphère très malaisée. On cherche où on va. Et on bouge encore, on change de tonalité. Là, on est en si mineur. En mi mineur. Et on se rapproche petit à petit de fa mineur. Très caractéristique du romantisme et de Chopin en général, ce genre de trait, la mélodie descendante. Des accords extrêmement tendus et qui ramènent au thème principal en atterrissant sur le cinquième degré. Et cette fois-ci, le thème est beaucoup plus résolu et vous verrez beaucoup plus ornementé. Et là, on ne va même pas au bout du thème, on se plonge directement dans les ornements, de plus en plus, qui descendent en cascade. On accélère, doucement. Et là, on est dans ce qu'on appelle une coda, c'est-à-dire après la dernière exposition du thème, la dernière explosion de virtuosité. On retrouve beaucoup dans le romantisme. Et enfin, cette conclusion, sur laquelle j'aimerais revenir un tout petit peu. Alors, dans les codas, on a souvent, voilà, beaucoup d'arpèges de ce genre. Les arpèges, c'est le fait de jouer un accord de manière brisée, c'est-à-dire qu'au lieu de faire, on fait. Ce genre de choses-là. C'est très caractéristique des codas et de ce moment-là. Cette dernière élan de virtuosité, surtout Chopin. Chopin adore les arpèges. Et on a, à la fin, ces derniers accords, vraiment, qui concluent le morceau que je vais vous jouer pour que vous puissiez apprécier le fait que c'est exactement la progression dont je vous avais parlé tout à l'heure. Sauf que au lieu de finir sur l'accord de fa mineur et de faire, il préfère finir sur un fa majeur qui ramène. Le mineur n'est pas foncièrement triste, le mineur est plutôt sombre là où le majeur va être lumineux. Eh bien, en ramenant cet accord majeur inespéré à la fin, Chopin rajoute de la lumière à la fin du morceau. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des choses que j'avais à vous dire sur ce morceau. Et évidemment, la musique classique est extrêmement riche, et la musique de Chopin est tellement riche que je pense que ce morceau, à lui tout seul, pourrait mériter un podcast de 1 heure, 2 heures. Tant il est riche et subtil, et tant il y a de choses en fait intéressantes à comprendre là-dedans. Mais je pense que pour vous ramener dans cet univers de la musique classique, ce sera bien assez. Alors je vous laisse avec le Nocturne opus 55 en fa mineur de Chopin, et j'espère que vous revoir la fois prochaine pour un nouveau moment sur Transistor avec les humains et leurs machines à son.